Le passage qu'on va étudier, on va voir trois versets de l'Épître aux Galates. C'est un petit peu le message de Dieu pour moi dans ces dernières semaines, dans ma réflexion. Donc, n'y voyez pas quelque chose de personnel avec qui que ce soit, mais dans mes débats, discussions et disputes avec Dieu, on en était un petit peu là. Et ce passage me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et je l'ai cherché, je l'ai étudié un petit peu. Alors Galates chapitre 6, et on va lire du verset 7 à 9. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alors ça fait partie des passages qui, lus comme ça et avec ce vocabulaire un peu vieillot, on va dire, et plus trop actuel, peuvent paraître assez négatifs. C'est quoi la chair? Moissonner pour la chair? On sème quoi? On récolte quoi? C'est histoire de cannibale, ça veut dire quoi? Alors on va essayer d'avancer un petit peu dans ce texte, en l'actualisant un petit peu pour moi, pour nous, oui, lapsus révélateur, pour moi. Et puis on va parler un petit peu d'agriculture aussi, bien sûr, puisque c'est l'image qui est utilisée ici. Ne vous y trompez pas. Le verbe ici, tromper, veut dire s'égarer sans le savoir. Vous savez, il y a deux possibilités. Vous êtes à un croisement, vous savez que la route c'est celle-là, et vous dites non, je vais prendre celle-là. On a le droit, on peut, on est libre, on le fait, mais je sais pertinemment que je ne fais pas ce qu'il faut que je fasse. Je le fais, il y aura les conséquences qu'il y aura, c'est mon choix. Mais pendant que je suis sur cette route, je sais très bien que je suis sur celle que je ne devais pas prendre. Ça me regarde. Mais là, ne vous y trompez pas, ça veut dire attention de ne pas être sur une route qui est la mauvaise en étant persuadé que c'est la bonne. C'est là où c'est compliqué. Parce que je peux être en toute sincérité en train de mener ma vie dans une direction, vraiment sincèrement, prêt à défendre ce que je crois, mais je suis dans l'erreur. Parce que j'ai mal compris, parce que je sais pas, parce que j'ai pas les bonnes informations, parce que alors les raisons sont multiples et c'est pas notre sujet ce matin, mais c'est le sens de ce début de phrase. Ne soyez pas égarés. Et puis ça continue. On ne se moque pas de Dieu. Alors pourquoi on se moque pas de Dieu? Bon, l'idée c'est pas de faire des dieux puis de faire un pied de nez comme ça ou de hein. Mais même si le sens littéral de se moquer, c'était tourner le nez de quelqu'un. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, on lit toute la phrase. Ce que cette première partie affirme tout simplement, c'est que le monde spirituel obéit à des lois définies par Dieu, qui sont aussi logiques et rigoureuses que les lois qui existent dans le monde physique. En fait, le monde physique dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle le monde matériel, le monde que les scientifiques étudient tous les jours, c'est un monde qui a été, nous le savons, créé à l'image des lois spirituelles qui existaient avant. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, nous découvrons d'abord les lois matérielles, physiques, et puis petit à petit, nous comprenons que, ah, mais tiens, il y a la même chose dans le domaine spirituel. En réalité, c'est le contraire. Nous, on a le modèle, on n'a pas l'original. Mais c'est important de comprendre que le monde spirituel, donc le monde de l'esprit, n'est pas un monde farfelu, comme si c'était avec Dieu avait une baguette magique, il dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, puis demain, il se lève et dit, mais je pourrais faire autrement. Non, Dieu est esprit, donc il n'a pas un corps, il n'est pas un être humain comme nous. Mais il a une façon de penser, d'être en tant qu'esprit intelligent. Et sa façon de penser a établi un monde spirituel. Donc, dans le monde physique, pour que ce soit simple, vous savez que quand vous semez quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ce que vous avez semé qui va pousser. Si j'achète des graines de salade et que je dis je vais tromper mes voisins qui veulent toujours copier mon jardin et je mets mes graines de salade dans un sachet de graines de radis. Puis je dis à tout le monde, j'ai acheté des graines de radis. Et puis je les sème et puis sur le petit bout de bois, je mets l'emballage des graines de radis. Hein. Et puis pendant un certain temps, ben, tout le monde croit il a planté des radis. Mais au moment de la récolte, je peux tromper personne. C'est pas des radis, c'est des salades qui ont poussé. Parce que c'est ceux que j'ai semés. Hein. Il n'y a pas de possibilité en se persuadant que, en étant... Non. La nature de la graine fait que il va y avoir tel résultat. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Donc quand il est dit ici, on ne se moque pas de Dieu, l'idée c'est pas d'être irrespectueux devant Dieu ou de dire une blague qui aurait offensé Dieu. C'est juste, comprenez que Dieu a établi, que le monde spirituel plutôt, est un monde aussi logique et rigoureux que le monde physique. Donc ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter, tout simplement. Donc c'est très simple, c'est une évidence, c'est ce qui est écrit. Mais c'est important de le comprendre. Parce que on voit souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça dans la vie, je suis surpris par ce que je récolte. Pourquoi je me sens vide en ce moment ? Pourquoi je suis triste en ce moment ? Pourquoi je suis comme si, ou pourquoi je suis heureux, ou pourquoi... Hein, hein. Et puis, il y a des tas de raisons, parce qu'on est, on est complexe, on est un mélange justement, nous, du monde physique et du monde spirituel, avec toute l'âme qui est au milieu, donc c'est très compliqué, hein, tout ça interagit. Mais quand même, la plupart du temps, en tout cas dans ma vie, et puis ce qui me semble voir dans les Écritures, la raison est toute simple, hein. Je mange chez McDonald's matin, midi et soir pendant 2 mois et je suis malade. C'est simple. Et pourquoi je suis malade ? Ben parce que je mange mal. Hein. Je fais plus du tout d'exercice et puis j'ai mal là et j'ai mal là et j'ai mal là. Ben, c'est normal. Spirituellement, je vis d'une certaine façon et puis je récolte certaines choses. C'est logique. Et il faut pas voir là derrière une intention personnelle de Dieu de se venger. Vous savez ? Cette idée de Dieu qui dit, bon voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les embêter ? Qu'est-ce qui est désagréable ? Tiens ça. Ok, alors je vais leur demander de faire ça, et puis je vais voir ceux qui obéissent et ceux qui obéissent pas. Parce que pour savoir si les gens sont bien obéissants, hein, il faut leur demander des choses stupides qui n'ont pas de sens, désagréables, pour qu'ils apprennent à obéir sans discuter. Non, ça c'est peut-être à l'armée, ou c'était peut-être à l'armée comme ça avant, hein, où le but c'est l'obéissance. C'est pas important si c'est intelligent ou pas, si le but est vrai ou non. Ce qu'on veut vous apprendre, c'est obéir sans réfléchir, sans discuter. Ça, est-ce que c'est utile ? J'en sais rien, c'est pas le sujet ce matin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Pour Dieu, c'est pas l'obéissance bête qui est intéressante. C'est comprendre pourquoi il faut fonctionner comme ça, parce que ça va produire telle chose-là. Et lorsque j'enfreins cette loi spirituelle, je vais récolter les conséquences, mais c'est pas une punition ou une vengeance personnelle de Dieu. Lorsque quelqu'un de non-croyant se jette du 4e étage et s'écrase en bas à cause des lois de la physique et de la pesanteur, c'est pas une vengeance de Dieu qui dit « Ah, tu n'as pas voulu croire aux lois de la physique, je vais te faire écraser en bas ». Non, cette loi existe, je la connais ou je la connais pas. Si je décide de pas y croire et de sauter en me disant non mais moi je crois qu'au fond de moi je suis un oiseau. Il y a une erreur mais j'ai été créé pour voler et puis je saute et puis je m'écrase en bas. C'est personne qui m'a puni. Cette loi existait, elle est là, que j'y crois pas, que je l'utilise pas. D'accord ? Donc j'insiste un peu mais c'est important parce qu'après le reste est très simple. C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des lois, des principes, hein, qui, pas de loi dans le sens légaliste. Et ce que je mets en œuvre produit certaines choses, sans que Dieu intervienne personnellement pour dire « Ah, il a été gentil, un bonbon, t'es très gentil, une grande image, ah, 5 bonbons, ça fait un cadeau. » Non, c'est la conséquence naturelle. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair, de la chair, la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là ? D'abord, comment on peut semer de la chair ? Tout simplement, ici, c'est une image, bien sûr, et qui était compréhensible à l'époque où ça a été écrit pour nous. C'est peut-être un peu plus lointain, parce qu'en plus, ça a été mélangé avec cette idée que la chair, c'est ce qui est sexuel, ou c'est le corps humain. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça pourrait, mais c'est vraiment pas le sujet. Cette image nous parle simplement de ce qui a une valeur et une durée éternelle et de ce qui est temporel. Si j'investis ma vie, mon temps, mon argent, mon énergie, mes pensées, mes émotions, mes relations, tout ce qui fait que je suis ce que je suis, dans des choses qui sont uniquement temporelles, avec un but uniquement temporel, et en plus guidé par la recherche de ma satisfaction personnelle uniquement et prioritairement, je vais récolter ces choses-là. Ce qui veut dire que l'application de ce verset dans notre contexte culturel, c'est que celui qui se lève tôt, qui travaille dur et qui est sérieux, finira riche avec une bonne réputation, sûrement. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas question ici de faire des choses mal et puis de vivre dans le péché. Si je sème dans les choses matérielles, il y a de grandes chances que je les récolte. Pas partout, pas dans tous les moments, pas dans toutes les cultures, pas dans tous les contextes. Mais on parle pour nous ici. Si mon but c'est devenir riche, avoir de l'argent, assurer mon avenir matériel et être quelqu'un de bien et de reconnu, et que je mets toute mon énergie là-dedans, c'est très possible que j'y arrive. Pourquoi j'y arriverai pas? Plus ou moins. Mais je vais y arriver. Maintenant, la question, c'est, lorsque j'aurai obtenu ces choses-là, qui sont pas mauvaises, c'est pas un péché, encore une fois, c'est pas un mal, j'aurai simplement obtenu des choses matérielles, qui sont ce qu'elles sont, mais j'aurai pas récolté de choses qui nourrissent mon être intérieur. Par contre, si je sème, donc j'investis mon temps, mon argent, mon énergie, mes relations, mes émotions, tout ce que je suis, dans un but, dans une intention qui est celle que Dieu a voulu pour moi, même si ça se traduit par les mêmes choses, je vais aussi travailler, je vais aussi construire ma maison, je vais aussi avoir une éducation, je vais aussi je vais faire les mêmes choses. Mais parce qu'il y a une autre valeur dedans, je vais en récolter, entre guillemets, moissonner quelque chose qui est une nourriture qui tient, qui remplit l'âme, qui remplit le cœur. Et c'est pour ça que on ne peut pas du tout comparer, juger, dire lui il fait bien, lui il fait pas bien, lui il fait mal. Parce que la même action, le même résultat peut être à l'origine d'une semence qui n'a pas d'autre but que moi ici-bas, ou au contraire, ce que Dieu a voulu. Mais chacun de nous doit le trouver pour lui-même. On peut avoir cette idée que on peut équilibrer les choses. Donc, j'ai pris une mauvaise décision ou j'investis dans une mauvaise direction. Mais si parallèlement à ça, je donne quelque chose de bon et j'investis dans une bonne direction, ça va s'équilibrer. Mais ça, c'est pas vrai. L'un va pousser et l'autre va pousser et les deux vont pousser ensemble et ça fera ce que ça fera. Si je sème des mauvaises herbes dans mon jardin et je dis ouais mais pour équilibrer là je sème des bonnes, ok, ben les deux vont pousser. Laquelle va pousser mieux, laquelle va étouffer l'autre, ça j'en sais rien, c'est un autre sujet. Mais je peux pas dire parce que j'ai semé les bonnes ça va empêcher les mauvaises de pousser ou ça va annuler le reste. Il n'y a pas de marchandage avec Dieu. C'est aussi dans ce sens-là, on ne se moque pas de Dieu ou on ne peut pas le tromper. Lui, c'est pas quelque chose, encore une fois, de subjectif. Ah, il est content avec nous parce que j'ai fait plein de bonnes actions, là, vraiment. Cette semaine, j'étais à la braderie tout le temps, j'ai donné mon temps au lieu d'aller faire la fête, j'ai fait ci, j'ai fait ça et là. Donc, là, j'ai le droit d'être égoïste pendant une semaine parce que j'ai gagné des points, quoi. Et puis ça va s'équilibrer quand même, parce que après tout, on peut quand même pas vivre toujours comme ça ou comme ça. Non, ça a rien à voir. Je devais aller à la braderie si c'était le plan de Dieu, mais je devais pas y aller si c'est pas ce qu'il voulait. Et puis, je peux m'occuper de moi si c'est ce que Dieu veut, mais je dois pas m'en occuper maintenant si c'est pas ce qu'il veut pour moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas ce que je fais, mais quelle est l'intention qui est derrière? Quel est le but? Et en fait, quelle est la qualité de ma semence? Alors, pour essayer d'illustrer un petit peu ça, Je suis revenu à mon deuxième livre préféré, hein, vous savez de quoi je parle. Et donc, ils sont dans le désert, et puis tout d'un coup, le petit prince a soif. Et l'aviateur est surpris parce que il avait cru comprendre que cet être-là était un peu immatériel, il n'avait pas besoin de manger ni de boire. Et il lui dit, tu as donc soif toi aussi? Mais il ne répondit pas à ma question, il me dit simplement, l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Il y avait ici une double situation, hein. Il y a un être humain comme nous, il est dans le désert, il a presque plus d'eau, puis quand il n'y a plus d'eau, il va mourir de soif. Et puis il y a le petit prince qui est là, il n'a pas besoin de boire pour vivre, mais l'eau peut être bonne pour le cœur. C'est un peu notre situation. En tant qu'être humain, on a besoin d'un toit, d'une maison, de relations affectives, émotionnelles, etc. Et puis, il y a tout cet être spirituel qui est en nous. Bah, il n'a pas besoin de manger physiquement. Il n'a pas besoin d'une maison. Mais vous savez comme moi qu'il y a certains repas qui sont bons pour le cœur. C'est pas la nourriture, hein, mais le jour où vous vous sentez seul, abattu, déprimé, je vaux rien, j'ai pas d'amis sur terre, et quelqu'un vous appelle, tu veux passer à la maison, viens, enfin, reste manger. Vous aviez à manger dans votre frigo chez vous, vous étiez pas en train de mourir physiquement de faim, mais ce repas-là, il était bon pour le cœur. Ce repas-là, c'est une autre récolte, hein. Mais ça peut aussi être, vous m'avez invité à manger, donc comme je veux pas avoir l'air d'avoir moins de moyens que vous, je vais vous inviter à manger, et puis il faut que mon repas soit meilleur que le vôtre, ou au moins aussi bien, et je vous invite à manger dans cet état d'esprit-là. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le monde physique, il n'y en a pas. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui invite l'autre pour un repas. Mais dans un des deux cas, il y en a un qui est bon pour le cœur. Et je continue parce que ça explique mieux que moi, donc... Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ce qui fait que notre vie matérielle va avoir un sens, c'est que justement, derrière nos actions, notre travail, nos rencontres, nos activités, ce qu'on fait concrètement, il existe aussi une nourriture pour le cœur. Et celle-là, elle remplit, elle fait du bien. Et le petit prince dit, j'ai soif de cette eau-là, donne-moi à boire. Saint-Exupéry, qui avait une culture chrétienne, je ne sais pas si c'était un croyant personnel, presque paraphrase les paroles de Jésus, hein. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et c'est comme ça que Jésus a abordé cette femme samaritaine qui était là avec une vraie corde, une vraie cruche, un vrai puits en train de puiser de l'eau, et Jésus qui avait littéralement soif physiquement parce qu'il venait de marcher et qu'il faisait chaud, lui demande à boire. Mais immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. Et l'eau que je te donnerais, tu n'aurais plus jamais soif. Ah, ça veut dire que j'aurais plus besoin de venir ici puiser, travailler. Si. Mais c'est d'une autre eau que je parle. Celle qui est bonne pour le cœur. Jésus, parce que c'était Jésus, savait tout le temps mettre en relation ces deux choses-là. Il marchait avec les gens, il avait mal aux pieds, si les sandales étaient mal faites, elles lui faisaient des ampoules, il fallait qu'il dorme, il fallait qu'il mange, il s'est endormi plusieurs fois dans une barque dans la journée, pourquoi? Pas pour le plaisir de faire un miracle après, hein, parce que Jésus était comme nous, s'il travaillait la nuit, il dormait le jour, hein. Il pouvait pas ne pas dormir, il pouvait pas, donc il était humain, mais parce qu'il avait une vue claire, précise, sur le monde spirituel, il pouvait sans arrêt reconnecter les deux. Expliquer aux êtres humains, oui, vous avez été créés pour vivre sur terre dans ce monde physique, en prendre soin. Dès le départ, Dieu a dit à Adam, occupe-toi du jardin, fais-le fructifier, taille les arbres, récolte les fruits, entretiens-le, prends-en soin, monde physique. Mais à cette époque-là, le monde physique et le monde spirituel n'étaient pas dissociés. C'était clair, hein. Adam et Ève étaient dans le jardin et puis discutaient avec Dieu en même temps. Et parler avec les animaux, il n'y avait pas cette barrière-là. Le péché nous a rendus aveugles au monde spirituel, en tout cas dans le bon sens. Et maintenant, on tâtonne pour essayer de retrouver, de recoller les choses. Et parce que nous vivons dans une culture tellement matérialiste, là je ne parle pas spécialement d'ici, mais hein, cette partie du monde, où on a prétendu qu'il n'y avait que ça qui existait, hein, on est le résultat de la matière qui évolue, là, puis il n'y a rien d'autre derrière. Et en même temps, on voit tellement de mal-être qui qu'il faut quand même être absolument comme une autruche avec la tête dans le sable pour se dire qu'il y a pas quelque chose d'autre. Hein. Quand on voit, par exemple, hier soir, j'ai fait un tout petit tour, la quantité d'alcool que les gens peuvent ingurgiter sans rien faire d'autre qu'être assis à une table, dans quel but ? Se dire, ouais, on boit un peu, on s'amuse, ok, on boit un peu, ça permet de danser. Je peux comprendre, on boit un peu, on oublie, d'accord. Mais juste être là, avec une bouteille d'alcool fort dans une main, des bières de l'autre, à mélanger les deux, pour être le plus vite possible déconnecté du monde réel, il y a un problème. Pas avec les gens, hein. Avec l'affirmation, si le matériel va, tout va. Évidemment que non. Hein. Où ça va mieux matériellement que dans ce pays, sur la planète, actuellement ? Nulle part, même si c'est pas parfait ici. Et pourtant, c'est comme ailleurs. Hein. Mais cette eau, elle est bonne pour le cœur. Et pour nous, croyants, c'est exactement la même chose, bien sûr. Hein. Lorsqu'il est dit, celui qui sème de la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça n'a rien à voir ici avec le fait de vivre après la mort une autre vie. On a souvent, moi j'ai entendu ce verset plus ou moins expliqué comme ça, quoi. Hein. Voilà, ben ceux qui prennent, ceux qui sont attirés par la chair, donc les choses de la chair, le sexe, là, ben ils vont mourir, et puis les autres, ils vont vivre éternellement. C'est quoi cette histoire ? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que ce que je cultive, ce que je développe sur terre, ben, si c'est quelque chose qui n'est pas éternel, ben ça meurt. Si c'est éternel, ça dure. Mais en même temps, ce qui n'est pas éternel, ça nourrit pas à l'intérieur. Et c'est là où on ne se trompe, on peut pas se moquer de Dieu. C'est que je peux faire semblant d'avoir une vie honnête, je peux faire semblant d'être un bon chrétien, même pas semblant, mais faire ce qu'il faut dans l'extérieur. Mais si en réalité, dans ma vie, tous les jours, je sème pas des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, ma vie sera vide et je serai insatisfait. Et ça, je peux pas le changer. De la même façon que je peux pas semer des graines de carottes et espérer voir sortir des salades. Je sème des carottes, j'aurai des carottes, c'est bien. Si j'aime des carottes, ben mange des carottes. Ben moi, c'est des salades que je voulais. Alors, sème des salades. Mais j'aime pas semer les salades. Il n'y a pas de solution. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ne nous décourageons pas littéralement, ne nous laissons pas abattre. C'est pas naturel. Il n'y a rien de, il n'y a jamais rien de gagné dans ce domaine-là, parce que justement, nous sommes malades à cause du péché, et le monde dans lequel nous vivons aussi. Donc c'est jamais acquis, c'est jamais gagné. C'est pour ça que c'est fatigant. Je sais pas si vous êtes comme moi, j'en ai marre souvent de me lever le matin et de me dire « il faut recommencer encore ». Je me lève et je suis toujours égoïste, je me lève et je n'ai rien à faire des autres, je me lève et j'aimerais qu'on pense qu'à moi, je me lève et je suis pas satisfait, zut, mais hier soir ça allait, j'ai passé une bonne après-midi, j'étais avec eux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis couché content, merci Seigneur, j'ai une bonne journée, je me couche, je me lève, et mince, c'est tout effacé pendant la nuit, il faut recommencer. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, hein. Et c'est pour ça que, ben, Paul connaissait ça, il vivait pareil, hein. Ne vous relâchez pas, ne laissez. C'est pas une question que si je fais des efforts, Dieu est content. C'est juste que à cause de notre état, du péché qui est en nous, ben ça sera comme ça, ça sera jamais. Alors je le sais et du coup ben je me lève et avec le café ou le thé ou le verre d'eau, je dis Seigneur, bon ben voilà, une nouvelle journée et j'ai pas envie de finir la journée vide. Donc j'ai besoin qu'il y ait, dans ce que je vais faire, mon travail, ma famille, mais c'est pas ces choses-là qu'il faut jeter. Parce que le problème, il est en moi, il est pas dans les autres. Enfin, il est aussi dans les autres, mais il est d'abord en moi. Hein. J'ai besoin de cette eau aussi. J'ai besoin que tout ce que je vais faire, en plus de ce que je fais, il y ait aussi cette semence d'éternité qui est devant. Que ça ait un sens, que ça ait un but, que ça ait une valeur. Hein. Et... Le petit prince et l'aviateur marchent, et finalement, le petit prince s'endort dans les bras de l'aviateur, et puis il voit une fontaine. Et là, il arrive et il puise de l'eau pour le petit prince, il tire avec le seau. Et il dit, je compris ce qu'il avait cherché, je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but les yeux fermés, c'était doux comme une fête. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans le même jardin et ils ne trouvent même pas ce qu'ils cherchent. C'est exactement comme ça. Qu'est-ce que c'est qui donne du sens? Cette semaine, j'ai pu m'occuper de monter le stand pour la braderie. Alors bon, il y avait un but, il fallait que les bouts de bois tiennent, qu'ils soient à peu près d'aplomb, que l'eau rentre pas trop, que ça résiste au vent, etc. Bon, ça, il faut le faire. C'est une activité, c'est un travail, on le fait, hein. Mais par contre, il y a Daniel qui vient et il arrive, et puis il y a Robert qui arrive, et puis il y a Fred qui vient, et puis il y a Eric qui passe le soir, et puis on commence, et Isabelle arrive, et puis... Et à la fin, je regarde cette semaine, et je me dis, c'était du travail, j'ai un peu mal à l'âge, je me suis un peu coincé ici, parce qu'il y a l'âge qui passe, hein, la carrosserie tient pas bien, mais c'était une activité qui était bonne pour le cœur. C'était pas de le faire ou pas de le faire, on a le temps, on n'a pas le temps, on fait ce qu'on peut pas, c'est pas ça qui est important. Mais tout ce qu'on a vécu avec, mon neveu Yannick est venu un petit peu, il a appris à mettre une vis, il n'y arrivait pas. À la fin de la journée, il me dit, c'est pas utile que je vienne parce que, tu vois, je même pas arrivé à mettre une seule vis pendant que vous en avez mis. C'est pas ça le but. C'est pas grave, hein. Mais c'est que, il y avait quelque chose d'autre derrière, et tous ces moments avec tous ceux qu'on a pu voir et qu'on a pu vivre ensemble, c'était bon pour le cœur, ça nourrit. Après, il y a un résultat matériel qui est là, c'est bien, il y a des choses qui se font. Mais c'est ce qui fait que nos vies ont un sens, hein, parce que Dieu nous a créés pour ça. Et il n'y a pas d'alternative. Alors, j'aimerais souvent qu'il y en ait une autre. Hein, j'aimerais pouvoir m'occuper de rien d'autre que moi et être heureux. Mais ça ne marche pas. J'y suis pour rien, c'est comme ça. C'est pour ça que même en étant égoïste, le bon calcul, c'est chercher comment Dieu veut donner du sens à ce que nous faisons. Parce que sinon, je vais être misérable. Et je sais pas vous, mais moi, j'aime pas être misérable. C'est très désagréable. Je préfère être satisfait, rempli. Il n'y a pas d'autre eau, hein, qui puisse nourrir. Pierre, avec toutes les bêtises qu'il a fait, après il a renié Jésus, c'était vraiment le type même du grand incapable avec une grande bouche, etc. Mais instinctivement, il y avait une chose qu'il avait compris quand Jésus lui dit, et toi, tu veux pas aussi partir? Il dit, Seigneur, où on pourrait aller, hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, c'était son vocabulaire, mais il y a que toi qui rassasies. Donc finalement, je reste avec toi, c'est par intérêt. Mais oui, bien sûr. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Il veut nous remplir. Il a pour nous une eau qui est bonne pour le cœur. Il a pour nous un pain qui rassasie. Alors, je veux être concret, je veux terminer. Parce que ça, c'est super, c'est intéressant, j'ai souvent expliqué ça. Mais après, on fait quoi? Là, je rentre chez moi, je vais manger, qu'est-ce qui se passe? Et je pensais à ça et je me disais, je vois deux options. Soit vous savez ce que Dieu attend de vous, clairement, puis vous voulez pas vous décider, mais vous le savez. Ben là, il n'y a rien à faire. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais vous savez. Hein, c'est bien. Et puis, ben, allez jusqu'au bout, soyez fous avec ça, puis ça vous amènera là où Dieu voudra. Puis ça, c'est le plus agréable, dans un sens. Mais peut-être vous savez pas. Ouais, mais moi, je fais quoi? J'ai pas de dons, je sais pas quels sont mes dons, je sais pas quoi faire. Je suis coincé ici, je travaille, j'ai ci, j'ai ça. J'ai pensé à ce verset, Ecclésiaste 9:10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est simple, hein. Si Dieu, Ecclésiaste 9:10, si Dieu vous a pas dit clairement, lève-toi, pars à Tombouctou et va prêcher là avec un sac, lève-toi, va à Ninive, fais ça, ou qu'est-ce qu'il y a devant vous? Vous vivez où? Ici, ce matin, actuellement, au jour d'aujourd'hui, ça peut changer, vous êtes dans cette église-là, ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, mais je sais pas si j'ai ce don, je sais pas si je suis appelé. Fais-le. Et puis vous allez trouver le chemin. Parce que deux possibilités. Soit en le faisant, vous allez vous dire, ben, en tout cas, une chose est sûre, je suis pas fait pour ça. Super. Vous savez au moins où il faut pas aller. Il reste plein d'autres choses à faire. Ou probablement, ce qui va se passer, c'est que cette chose-là vous a amené à une autre, cette chose-là à une autre, cette chose-là à une autre. Et vous allez arriver au bout de vos vies en vous disant, tiens, Je ne sais pas comment ça se fait, mais Dieu m'a conduit d'une chose à l'autre, d'une chose à faire à une autre chose à faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement la chose à faire qui est importante. C'est quoi la différence entre mettre des vis, faire cuire du poisson, ou repeindre un mur, ou aller visiter quelqu'un, ou tondre la pelouse, ou... Il n'y en a pas. On est différent, on a des capacités différentes, des aptitudes différentes, des âges différents, donc des possibilités différentes. Mais en réalité, c'est la même chose. Ce que je fais, est-ce qu'il y a un contenu dedans éternel ou non? Si oui, c'est bon pour le cœur. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas une fatalité. Je ne suis pas obligé de le subir parce que je ne suis pas obligé de partir pour que ça change. Je ne suis pas obligé d'aller ailleurs, je ne suis pas obligé de changer de famille, d'enfants, de femmes, de pays. C'est juste entre moi et Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Ben, je vais le faire. Et je vais découvrir que cette eau, elle est bonne. Parce que c'est le fruit de la marche dans le désert et du seau qu'on a soulevé et des choses qu'on a vécues ensemble. Et ça va remplir nos vies. Alors, je vous laisse avec ça. Parce que sinon, ben, on peut cultiver 5000 roses et on ne trouve pas ce qu'on cherche. Parce qu'il suffisait d'en trouver une. La bonne, la sienne. Hein. Et on est tellement corrompu par notre pensée de productivité. Ouais, si je suis heureux avec une rose, vous imaginez si j'en ai 5000? Waouh! Non, demandez à Salomon qui a eu je ne sais plus combien de centaines de femmes. Il vaut mieux en avoir une. C'est pas ça qui lui a amené le bonheur. Hein, non. Donc c'est pas la multiplication des choses, c'est la qualité de ce qu'il y a dedans. Et cette qualité, elle vient de la vie de Dieu. Et on a besoin de lui pour ça. Alors prions. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à ne pas nous séduire nous-mêmes, à ne pas nous tromper et à comprendre ce que tu nous as confié, ce que tu nous demandes, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci parce que même si c'est pas toujours simple, tu as un chemin pour nous et là-dedans, tu as une eau qui est bonne pour le cœur. Tu as une nourriture qui remplit, qui rassasie. Et c'est celle-là que nous voulons trouver. Merci parce que tu es le seul qui puisse nous apaiser, nous remplir de sens, nous remplir de toi et nous amener à servir les autres, mais avec satisfaction, avec plénitude. Merci de faire ce travail dans chacun de nos vies et puis de nous garder, Seigneur. Amen.